lorsqu'on s'aperçoit que la politique qui est menée par tel ou tel État, notamment par le nôtre propre, ne va pas vers la justice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère vient.
Est-ce ainsi que les hommes vivent ?
Une émission de Paola.
Essayez de comprendre le monde dans lequel nous vivons
à travers des analyses sociologiques,
philosophiques
ou politiques
tirées d'essais d'auteurs contemporains.
Genre d'occupation au
cœur de l'île. Par milliers.
Il pleut des émeutes sur le globe. Oui, la jeunesse est dans la ville. Police ne changera rien parce que l'opprimé nous habite. Parce qu'on a dit non, que partout on sera libre. Au-delà des frontières et sans aucun parti. Allez leur dire trop spontané pour être en...
Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé, et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le discours lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. Aimé Césaire, discours sur le colonialisme.
Acá los pueblos tienen la rabia.
Pueblos unidos, pa 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 pa.
La rue s'est soulevée en faire trembler la machine.
Indignados, pa 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 pa.
C'est une dingue qui s'est levée mondialement et sans parti.
Indignados, pa 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 pa.
Ingénieur, lève-toi, anonyme dans vos villes, s'il vous plaît.
Nous proclamons que désormais au Burkina Faso, plus rien ne se fera sans la participation des Burkinabés. Rien qui n'ait été au préalable décidé par nous, élaboré par nous. Il n'y aura plus d'attentat à notre pudeur et à notre dignité. Fort de cette certitude, nous voudrions que notre parole s'élargisse à tous ceux qui souffrent dans leur chair, tous ceux qui sont bafoués dans leur dignité par une minorité d'hommes ou par un système qui les écrase. Permettez-moi, vous qui m'écoutez, que je le dise, je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos, parce qu'ils ont la peau noire, ou qu'ils sont de cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans des réserves, afin qu'ils n'espèrent à aucun droit et que leur culture ne puisse s'enrichir en convolant en noce heureuse au contact d'autres cultures, y compris celle de l'envahisseur. Je m'exclame au nom des chômeurs d'un système structurellement injuste et conjoncturellement désaxé, réduit à ne percevoir de la vie que le reflet de celle des plus nantis. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à accueillir toutes les suggestions du monde entier nous permettant de parvenir à l'épanouissement total de la femme burkinabé. En retour, nous donnons en partage à tous les pays l'expérience positive que nous entreprenons avec des femmes désormais présentes à tous les échelons de l'appareil d'État et de la vie sociale au Burkina Faso. Des femmes qui butent et proclament avec nous que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et nous en appelons à toutes nos sœurs de toutes les races pour qu'elles montent à l'assaut pour la conquête de leurs droits. Je parle au nom des mères de nos pays démunis qui voient mourir leurs enfants de paludisme ou de diarrhée, ignorant qu'il existe pour les sauver des moyens simples que la science des multinationales ne leur offre pas, préférant investir dans les laboratoires de cosmétiques et dans la chirurgie esthétique pour les caprices de quelques femmes ou d'hommes dont la coquetterie est menacée par les excès de calories de leur repas trop riches et d'une régularité à vous donner, non, plutôt à nous donner, à nous autres du Sahel, le vertige. Ces moyens simples, recommandés par l'OMS et l'UNICEF, nous avons décidé de les adopter et de les populariser. Je parle aussi au nom de l'enfant. L'enfant du pauvre qui a faim et qui louche furtivement vers l'abondance amoncelée dans une boutique pour riches. La boutique protégée par une épaisse vitre. La vitre défendue par une grille infranchissable. Et la grille gardée par un policier casqué, ganté et armé de matraques. Ce policier, placé là par le père d'un autre enfant qui viendra se servir, ou plutôt se faire servir, parce que présentant toutes les garanties de représentativité et de normes capitalistiques du système. Je parle au nom des artistes, poètes, peintres, sculpteurs, musiciens, acteurs, etc. Hommes de bien qui voient leur art se prostituer par l'alchimie des prestidigitations du show business. Je crie au nom des journalistes qui sont réduits soit au silence, soit au mensonge pour ne pas subir les dures lois du chômage. Je proteste au nom des sportifs du monde entier dont les muscles sont exploités par les systèmes politiques ou les négociants de l'esclavage moderne des stades. Mon pays est un concentré de tous les malheurs des peuples, une synthèse douloureuse de toutes les souffrances de l'humanité, mais aussi et surtout des espérances de notre lutte.
Voilà, bonjour aux auditeurs de Radio Larzac et de l'émission Est-ce ainsi que les hommes vivent ? C'est toujours avec émotion que j'entends ce discours de Thomas Sankara, enfin un extrait du discours qu'il a prononcé à l'ONU le 4 octobre 1984. Donc pour aujourd'hui, on va parler de Thomas Sankara pour démarrer cette émission. Alors pour ceux qui ne savent pas qui il est, il a été le président du Burkina Faso de 1983 à 1987. Alors le Burkina Faso, faut savoir que quand Thomas Sankara est arrivé au pouvoir, ça s'appelait la Haute-Volta. Et c'était un nom, bien sûr, qui était issu de la colonisation. Et Thomas Sankara a souhaité le rebaptiser et lui a donc donné le nom de Burkina Faso, ce qui signifie « pays des hommes intègres ». Donc, le 4 août 1983, Thomas Sankara a pris le pouvoir sans effusion de sang. C'est important à signaler. Il avait 34 ans à ce moment-là. Donc avec ses compagnons d'armes, dont Blaise Compaoré, dont on a entendu parler rapidement. Donc le président Ouédraogo, qui était président à l'époque, a été emprisonné et puis libéré 2 ans plus tard. Il est, aux dernières nouvelles, toujours vivant au Burkina Faso. Voilà, donc ça n'a pas du tout été une prise de pouvoir violente, mais très calme, on va dire. Donc aussitôt qu'il a été au pouvoir, il a installé ce qu'ils ont appelé le CNR, c'est le Conseil National de la Révolution. Donc Thomas Sankara a été élu président et il a constitué son gouvernement. Alors, bien entendu, le gouvernement français va s'inquiéter ouvertement de l'arrivée au pouvoir de ce militant, d'autant que Thomas Sankara est un militant marxiste. Il avait en effet découvert le marxisme à Madagascar lorsqu'il avait été en formation sur cette île. Et dans sa parole, dans son engagement, bien sûr, il dénonce le colonialisme. Il est panafricain et il dénonce ce néocolonialisme donc, qui a été mis en place au moment du processus de décolonisation officielle qui a eu lieu dans les années 60, à partir de 1960. Donc il va mettre en place des mesures politiques importantes qui vont complètement à contre-courant du fonctionnement de la société burkinabé à ce moment-là. Et notamment, ce qui est assez intéressant d'observer, notamment en direction des femmes.
Les femmes chez nous sont numériquement les plus nombreuses, mais du point de vue de la participation à la vie nationale, à la gestion des affaires, elles sont laissées pour compte. Nous avons pris des mesures pour montrer que nous accordons cette importance à la femme. Épanouissement du couple égale épanouissement familial égale essor national. Eh bien, nous avons imposé que le marché soit fermé aux femmes. Seules les vendeuses y avaient accès. Et les hommes qui voulaient que les repas soient à point pour le déjeuner, pour le dîner, eh bien, ils devaient eux-mêmes faire le marché. Les hommes chez nous ne font pas le marché. C'est une déchéance. Et ce n'est pas facile de s'attaquer à de tels préjugés, à de telles conceptions. Chacun de nous ici a été élevé dans le sentiment que parce qu'il est homme, il est d'office, il est d'emblée supérieur à tout ce qui est femme. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur force physique, leur intelligence. Nous avons nommé des femmes à des postes de responsabilité. Dans notre premier gouvernement, nous avions une femme. On nous a dit, oui, c'est bien, vous parlez beaucoup des femmes, mais enfin, on ne voit qu'une femme. C'est un alibi, c'est une femme alibi que vous aviez utilisée. Aujourd'hui, nous pensons que nous avons fait du chemin. Nous avons dans notre gouvernement 3 femmes ministres. Essor familial et solidarité nationale, sport et loisirs, le budget. C'est une question qui est permanemment, quotidiennement importante. En tout cas, cette femme qui est au budget, comme j'ai eu l'occasion de le dire lorsqu'elle prenait fonction, elle se trouve dans le portefeuille de tous les hommes ici. Nous avons fait cela, nous avons nommé des femmes hauts commissaires qui commandent, qui dirigent des provinces au même titre que des hommes. Il y en a 4 en ce moment. Nous avons nommé des femmes à des postes de direction générale de grandes sociétés de la place. Et cela fonctionne très bien. Les femmes commencent à se dire, mais tiens, ce Conseil national de la Révolution, il est vraiment au sérieux pour la promotion de la femme. Et c'est elle-même qui nous propose maintenant les femmes qu'elles estiment capables.
Voilà, donc c'était Thomas Sankara donc, qui expliquait un petit peu ce qui avait été mis en place par rapport aux femmes. Donc on voit qu'il était très progressiste dans beaucoup de domaines, mais également au niveau des femmes. Cet extrait fait partie d'un documentaire qui s'appelle Thomas Sankara et la France-Afrique et que vous pouvez voir sur Internet, voilà, qui est vraiment très très intéressant. Alors, donc on voit qu'il va mettre en place beaucoup de mesures comme ça concrètes, il va s'emparer des choses, il va notamment lutter contre la corruption qui gangrenait le gouvernement burkinabé à l'époque. Donc ça, c'est des mesures qui ne vont pas plaire à tout le monde. Il s'octroie un salaire qui va être d'un montant de 200 euros par mois. Il va vendre toutes les voitures énormes qu'utilisaient les fonctionnaires du gouvernement. Et il va acheter à la place des Renault 5. Donc lui-même roulait en Renault 5. Il va lutter contre la désertification en plantant des arbres partout, avec la population. Il a toute la population qui est derrière lui. Donc il fait des choix économiques qui sont également très importants. Il affirme que le sous-développement n'est pas une fatalité si l'on fait les bons choix. Choix qu'il résume dans une phrase emblématique. Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous. Alors, ce qu'on peut dire également sur Thomas Sankara, c'est qu'il fait partie de la génération qui s'oppose au néolibéralisme et au néocolonialisme, parce que lui, il est né après le processus de décolonisation. Et donc, sa lutte va démarrer sur les bases du néolibéralisme qui a mis en place ce néocolonialisme qui maintient un pouvoir total sur l'Afrique, qu'il soit économique, politique ou culturel. Donc il lutte pour la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. Il a une démarche qui est totalement anti-impérialiste. Pour lui, il s'agit de produire et de consommer burkinabé. Donc il va encourager, initialiser des cultures vivrières sur l'ensemble du territoire en impliquant l'ensemble de la population. Il travaille avec les gens. C'était vraiment un leader très charismatique et très impliqué pour faire que son pays sorte de cette pauvreté et arrive à une autosuffisance alimentaire pour pouvoir fonctionner sans la France. Donc, avec toutes ces démarches-là, il s'inscrit en fait sur les traces de la résistance active que l'on retrouve par exemple en Inde avec Gandhi, dont il se revendique. Un exemple au niveau de l'autosuffisance des Burkinabés, il remet en service des appareils de tissage. Et avec ces appareils, avec ces machines à tisser, la population tisse les vêtements avec le coton burkinabé, dont la production va être largement développée également par Thomas Sankara. Donc il lui-même est habillé avec des habits qui sont fabriqués au Burkina Faso. Au niveau du taux de scolarisation, le Burkina Faso souffrait d'un taux de scolarisation très très bas. Il va être doublé en 2 à 3 ans parce que il pense que l'éducation et la culture sont les premiers pas vers une émancipation sociale et politique. Sur le plan sanitaire, il va effectuer de nombreux investissements, notamment pour assurer une couverture vaccinale à un maximum d'enfants et pour créer des postes de santé primaire. Il va vacciner des milliers et des milliers d'enfants. Au niveau de l'irrigation, il va être à l'initiative de la construction de 32 barrages qui vont être construits pour l'irrigation en 4 ans. 32 barrages, c'est énorme quand on sait qu'il y en a 20 qui avaient été construits entre 1960 et 1983. On le voit bien dans les différentes vidéos qu'il y a sur Internet. Les barrages sont construits par les villageois qui à ce moment-là vont prendre leur destin en main. Et c'est ce que voulait Thomas Sankara, que les Burkinabés s'emparent de leur destin, qu'ils ne soient plus à subir ce que l'Occident décide pour eux. Donc tout ce qui est construit, on voit que c'est vraiment les gens qui s'emparent de tous les chantiers, et Dieu sait s'ils sont nombreux, qui sont mis en place au Burkina Faso. Mais comme on peut bien sûr l'imaginer, cette révolution culturelle, économique, politique n'est pas du goût de tout le monde. Par exemple, en Côte d'Ivoire, Humphrey de Boigny regarde ça d'un mauvais œil, lui qui est le représentant de la France-Afrique en Afrique, mais également au Togo, au Sénégal, donc tous les pays qui sont encore sous une très forte influence française, vont craindre la contagion de ces idées parce que ces États, ces chefs d'État ont tout intérêt à ce que les choses ne changent pas, étant donné que c'est eux qui bénéficient directement de l'apport économique de la France. Ce sont eux et non pas les peuples africains. Donc ils regardent d'un mauvais œil ce jeune chef d'État qui avec sa sincérité, son investissement, son énergie, son désir d'amener son peuple au bonheur. Il parle du bonheur, il dit qu'un peuple qui ne rencontre pas le bonheur ne peut pas avancer. Donc c'était vraiment un regard global qu'il avait sur son pays, sur le peuple burkinabé. Donc on va observer une première tentative d'assassinat qui va échouer, qui va être déjouée par son entourage. Mais bon, n'empêche, il est en danger, il le sait. Il fait également son autocritique. Il va se rendre compte qu'il a voulu aller trop vite, dans une espèce d'urgence. De toute façon, il savait qu'il était menacé parce qu'il dérangeait trop de monde. Donc ça a d'autant, pour lui, augmenté le désir d'accélérer ce processus qu'il voulait mettre en place, qu'il voulait partager avec un maximum de monde, qu'il voulait que les gens comprennent l'importance de toute cette démarche pour trouver, pour que les gens ne meurent plus de faim, pour qu'ils soient soignés, pour qu'ils retrouvent leur dignité. Et in fine, le bonheur peut-être. Donc dans un de ses derniers discours, il s'exprime ainsi. Il nous faudra faire une année de bilan. C'est vrai, dans le proche passé, nous avons parfois commis des erreurs. Cela ne devra plus se produire. Il doit y avoir de la place dans le cœur de chacun d'entre nous pour ceux qui ne sont pas encore parfaitement en harmonie avec l'orientation du discours politique et les objectifs de notre plan quinquennal. Ce sera à nous d'aller à eux et de les gagner à la cause du peuple. Persévérance, tolérance, critique des autres, critique de nous-mêmes, voilà le difficile combat. Donc on voit dans ces quelques mots comment il était capable de se remettre en question lui-même, de prendre conscience des erreurs qu'il avait commises, de les analyser et en même temps de vouloir continuer sur les objectifs qu'il s'était fixés. Il ne lâchait pas, il voulait avancer et puis peut-être être un peu plus compréhensif avec ceux qui finalement ne comprenaient pas tout à fait le sens de son combat. Ce qu'il souhaite, en fait, c'est que les citoyens soient dépositaires du pouvoir, que ce soit eux qui prennent en main les choses, alors que les gens qui l'entourent au niveau du gouvernement qu'il a mis en place, eux, ils veulent juste profiter de leurs privilèges, des bienfaits du pouvoir. Finalement, ceux qui sont sur la même longueur d'onde que lui sont rares et autour de lui il y en a qui en ont un petit peu assez de partager le pouvoir, les richesses, qui ont envie de retourner à leurs privilèges. Alors il avait accédé au pouvoir avec son compagnon d'armes Blaise Compaoré qui avait fait avec lui la formation militaire, donc ils se connaissaient depuis de longues années, et il a appris que Blaise Compaoré complétait contre lui. Mais il n'a pas voulu agir. Pour lui, remettre en question, accepter que son ami puisse envisager de le trahir, c'était déjà une défaite humaine, et il ne pouvait pas s'attaquer à Blaise Compaoré. C'était trop... Ça aurait été quelque part transgresser leur amitié, la confiance qu'ils lui faisaient depuis des années. Et donc l'issue, bien sûr, a été fatale. Et le 15 octobre 1987, Sankara et 13 de ses conseillers ont été abattus. Donc ils étaient en réunion. L'ensemble, ils ont commencé à entendre des tirs de mitraillettes. Et Sankara a dit « Ne bougez pas, c'est moi qu'ils viennent chercher. » Il est sorti les mains en l'air et là il a été abattu. Et ensuite tous ses conseillers ont été abattus. Il y en a un seul qui avait été laissé pour mort et qui a survécu à ses blessures. C'est lui qui a raconté comment ça s'était passé au niveau de quand ils ont entendu le bruit des mitraillettes. Motoma Sankara savait qu'il était menacé. C'était pas une surprise pour lui et il l'a affronté avec le courage dont il avait fait toujours preuve. Alors pour l'association Survie, dont je vais vous reparler dans quelques minutes, et pour d'autres associations et organisations, l'élimination de Thomas Sankara a été pensée et prévue par les services français. Il gênait, c'est évident, c'est sûr. Il gênait tous les gouvernements de la France-Afrique, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, parce que la plupart des chefs d'État n'avaient pas envie que soit remis en question leurs privilèges et leur train de vie. Donc sa lutte contre la corruption aurait pu faire tache d'huile au niveau des peuples. Donc Blaise Compaoré, bien sûr, a réintégré le giron des pays africains amis de la France. Il est redevenu le sage chef d'État dont le gouvernement français attendait le comportement. Mais le modèle d'indépendance économique et politique qui était prôné par Thomas Sankara et le retournement des alliances représentaient un danger pour les puissances coloniales et également pour les États-Unis qui surveillaient cette région avec une attention non feinte. Compaoré, bien sûr, a abandonné l'idée de la révolution au profit d'intérêts partisans et financiers. Donc, il a participé à des guerres civiles. Enfin, il a eu des choses vraiment très, très, très sombres et très cyniques qui se sont passées après. Alors, où on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une enquête qui est en cours sur l'assassinat de Thomas Sankara. Il y a eu 12 députés du Burkina Faso qui ont écrit en avril 2011 aux parlementaires français pour demander l'ouverture d'une enquête parlementaire. Et ils ont été relayés par les députés écologistes et ceux du Front de Gauche à l'Assemblée nationale. Alors ça date de 2012. À ce jour, il y a un juge qui a été nommé puisque Blaise Compaoré a été évincé du pouvoir. Je vais vous expliquer dans quelques minutes. Donc, à partir du moment où Blaise Compaoré n'a plus été au pouvoir, le juge François Yaméogo a été chargé de mener une enquête qui avait été enterrée par Blaise Compaoré. Et il s'est naturellement tourné vers la France. Il a demandé, par commission rogatoire, la levée du secret défense. Et le 27 janvier 2016, donc il y a quelques jours, le réseau international, donc si vous voulez aller voir pareil sur Internet, c'est un réseau qui s'appelle Justice pour Sankara, Justice pour l'Afrique, a adressé un courrier aux parlementaires français en ces termes, donc je cite, « La France doit accepter la demande du juge burkinabé Yaméogo d'une commission rogatoire et de la levée du secret défense. » À ce sujet, il y a une pétition qui circule sur le net et je vous invite à aller voir et éventuellement à la signer si vous avez envie de donner votre voix sur cette démarche et ce sujet. Alors, juste deux mots par rapport à Blaise Compaoré. Donc, il est resté au pouvoir jusqu'à ce qu'il ait 63 ans. C'était sa 28e année au pouvoir qui démarrait. Et il avait modifié la Constitution pour pouvoir encore être réélu. Là, il y a eu un soulèvement populaire avec plus d'un million de personnes dans les rues de Ouagadougou. Après plusieurs jours de contestation, il a été obligé de fuir. Alors, il a fui le pays le 31 octobre 2014. Hein, c'est pas très vieux. Et alors là, comment a-t-il pu se sauver? Donc, il y a tout un... ils étaient un convoi de je ne sais plus combien, une quarantaine de véhicules qui ont essayé de fuir Ouagadougou, mais ils ont appris qu'ils étaient attendus par d'autres personnes insurrectionnelles qui les attendaient. Donc là, il a été sauvé par un hélicoptère de l'armée française, tiens, qui est venu le chercher. Lui, sa femme et 4 autres personnes. Et ils l'ont emmené un peu plus à l'est, où là, l'attendait un avion français. C'est drôle quand même. Qui va le conduire dans la soirée en Côte d'Ivoire, où il est toujours, où il va très bien. Le Burkina Faso a demandé à ce qu'il soit... qu'il puisse être interrogé par rapport au meurtre de Thomas Sankara, mais sans doute que ça ne se fera jamais. Alors, voilà pour finir, mais je vous invite. Alors, il y a un film qui s'appelle Capitaine Thomas Sankara. Je ne pense pas qu'il soit passé à Millau. On va essayer de le faire venir. Sinon, sur le net, il y a beaucoup de choses sur lui. Et c'est vrai que 30 ans plus tard, Thomas Sankara est un mythe dans toute l'Afrique de l'Ouest. Bon, ici, on ne se rend pas trop compte, mais là-bas, c'est vraiment une figure insurrectionnelle comme le Che, par exemple, en Amérique latine. Il disait s'inscrire dans une lignée de lutte anti-impérialiste, anti-colonialiste. Il se disait héritier de Gandhi, Nelson Mandela, de toutes les luttes qui avaient eu lieu avant lui. Il a laissé son empreinte, une contribution éclatante à la lutte pour un monde plus juste et solidaire. Merci Thomas Sankara.
Je m'éveille poussière d'étoiles mêlée aux vagues, d'où passe à mon corps à rencontrer son âme. La vie lève le voile, Thomas Lambert à la clinique du plateau. Petit tout babla, il est trop choco. C'est Kabako, il envoie rythme sur le landau. Je te prédis qu'il fera bouger Bouchon. Abidjan mangeaille de moiteurs, de senteurs, de bandits, bananiers, lagunes et brillées. Maman est fatiguée, ma sœur n'a pas pleuré. Papa n'est pas parti travailler, en 73 Abidjan je m'éveillais. Mon accent picard toujours, j'en rigole. Je le tenais de mes copains d'école. Je leur chantais seul debout sur ma chaise, ma chotte mélodie abidjanaise. Ma Côte d'Ivoire, parapara, Afro-Picard. Les papis s'embrassent de foutou, d'acheke, foufou, garba, corpiment. De mon tonnet tu n'aimes pas, mais tu laisses pas arriver sous la pluie. Je retrouve enfin mon pays, ma Côte d'Ivoire. Ça cause tard le soir, j'ai les bêtés. Je suis calé au placali, afoué m'emmène chez sa mamie. Boucher les baoulés. Abidjan des voiles, c'est maquis, c'est marché, c'est glo-glo, c'est building, église et mosquée. Maman est fatiguée, ma sœur n'a pas pleuré. Papa n'est pas parti travailler, en 73 à Abidjan je m'éveillais. Mon accent picard toujours, j'en rigole. Je le tenais de mes copains d'école. Je leur chantais seul debout sur ma chaise, ma chotte mélodie abidjanaise. Papa, ma Côte d'Ivoire, balapara, Afro-Picard. Montez le son du Zoulou, Zorboto, Zigribiti, Zaouli, Yusumba, reggae, coupé, décalé. Papi sait danser. Je suis né sous un soleil en hiver, à Califourchon entre deux hémisphères. À scruter toujours derrière la frontière, les larmes d'amour ou les chants de guerre. Ouais, ça c'est un son pour tous mes bras morts, pour tous mes vieux bêtes, tous mes fistons, tous les morts puissants qu'elle est à Abidjan. C'est aussi à John Johnson pour toucher Tchoubilou, toucher Tchonazu avec qui on chantait. Le Michko qui je coupage, coin de j'fume un Tchoufiu. Accent picard, je l'aime, Nim Kajol. Il me rappelle trop mes copains d'école. Je leur chantais seul debout sur ma chaise, ma tchotte mélodie abidjanaise. Papara, ma Côte d'Ivoire. Parapara. Je suis Afro-Picard.
Viens pas comme moi, mets le sang et Abidjan t'attend, mets le sang et à nos frères là, mets le sang et nia nia nia, pas fait pas. Nia nia nia, pas fait pas.
Afro, Sylvain, Afro,
Zamrou, 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 Zamrou. le sang là. Appelez l'ami qui a metté le sang là. Simon, Simon, Abidjan, bougez vos dents.
Voilà, c'était Thomas Sidibé, Afro-Picard. Donc on continue, vous êtes toujours à l'écoute de Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Et on continue sur la France-Afrique. Alors je voudrais faire un petit peu de pub, voilà, c'est pas coutume sur Radio Larzac, mais on va s'y mettre. Vous parlez d'un collectif qui s'appelle Ballast, donc B-A-2-L-A-S-T, qui est un collectif qui a été créé en novembre 2014 et qui regroupe une cinquantaine de bénévoles de France, de Belgique, du Québec. Et c'est un collectif indépendant de tout groupe de presse et parti politique qui produit une revue qui paraît 4 fois par an, donc qui est trimestrielle, voilà, sans publicité, qui est disponible en librairie et qui a également un site. Et cette revue et le site de Ballast sont extrêmement intéressants quand on a envie de comprendre et de réfléchir sur le monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Alors leur but, c'est de croiser, donc je les cite là, de casser les vases clos, ouvrir les petites cases, mêler la pensée et le ras de terre, l'analyse et le plan serré sur l'ordinaire. Voilà, tramer de concerts politiques et poésie, économie et musique, philosophie et reportage, faire front contre les puissants, les bien lotis, les dominants, chercher les mots et les pratiques à même d'articuler, tant bien que mal, les idées contestatrices fragmentées. Voilà, pour résumer un petit peu l'esprit et les objectifs de Ballast. Alors, vous pouvez soit acheter le livre ou la revue ou aller sur leur site. Et leur site, c'est vraiment une mine avec plein d'articles, plein de vidéos. C'est vraiment très, très riche, avec des rubriques telles que écologie, économie, éthique animale, féminisme, international, et vraiment des intellectuels très intéressants contribuent au site et à la revue Ballast. Et puis, une association, cette fois, Survie, dont je parle régulièrement parce qu'on ne peut pas aborder la France-Afrique sans passer par Survie, parce que c'est Survie qui est née en 84, donc qui est une association loi 1901 qui a commencé à dénoncer toutes les formes d'intervention néocoloniale française en Afrique et qui milite toujours pour une refonte réelle de la politique étrangère de la France en Afrique. Donc c'est François-Xavier Verschave qui, à l'époque, avec d'autres gens, a créé cette association Survie et qui a réutilisé, on va dire, ce mot de France-Afrique pour montrer ce qu'elle recouvrait. Voilà, ce que ça recouvre en termes de d'oppression et de pillage de l'Afrique, voilà. Alors, sur le site de Ballast, il y a une interview de Survie, entre autres, qui s'appelle « Il n'y a pas de base militaire africaine en France », que pour les gens que le sujet intéresse, je vous encourage à aller voir et à aller lire, c'est vraiment très intéressant. Et donc, j'ai fait le choix de partir au moins du début de cette interview pour reprendre des thèmes qui sont les bases du néocolonialisme. Alors, dans cet article, Survie repositionne bien les choses en disant que le colonialisme implique une dimension raciste et idéologique, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas seulement la mainmise économique et politique, il y a aussi cette dimension raciste. Et puis, les massacres de masse qui ont jalonné l'histoire coloniale, qui sont souvent occultés, comme la guerre du Cameroun, sur laquelle je reviendrai, puisque ça a été la base d'expérimentation, de mise en place de la France-Afrique. Donc, pense que ça mérite une émission à part entière. Et puis, ce point qui est aussi essentiel dans une démarche colonisatrice, qui est un processus de hiérarchisation des êtres humains et une aliénation des esprits qui a été fort bien décrite par Frantz Fanon. Alors, juste deux, trois mots sur le texte que j'ai lu au début dans le générique d'Aimé Césaire. J'ai eu envie de lire ce texte parce qu'il me semble tout à fait d'actualité quand Aimé Césaire dit que tout ce qu'on accepte de monstruosité là-bas, finalement, ça nous déshumanise ici. Et je pense qu'actuellement, on est dans un vrai processus de déshumanisation avec la montée d'extrême droite, avec un regard sur la différence qui se fait de plus en plus intolérant, voire violent. Et c'est vrai qu'on peut éclairer ce qui se passe maintenant aussi à la lumière de ce qu'on a, de ce qui s'est passé en notre nom au moment de la colonisation et qui continue à se passer aujourd'hui. Alors Ballast posait la question à Survie: à quoi ressemblerait une France qui devrait se passer de Total, de l'uranium et du nucléaire d'Areva ou de Bouygues? Aurions-nous encore de quoi allumer la lumière? Alors les représentants de Survie répondent: la France ne serait pas ce qu'elle est sans sa domination sur l'Afrique. Elle accède effectivement de manière préférentielle et à de faibles coûts à des ressources énergétiques situées dans ses anciennes colonies. De ce point de vue, le choix du nucléaire en France présenté comme une « indépendance énergétique » entre guillemets, ce qui est mensonger quand on sait d'où vient l'uranium, n'aurait peut-être pas été fait de manière aussi inconditionnelle, par exemple. Donc j'ai eu envie de creuser un petit peu cet aspect de l'économie énergétique de la France. Donc on l'a compris, hein, on ne serait pas un des pays les plus riches de la planète si on n'avait pas mis en place et maintenu notre domination sur l'Afrique. Alors Areva exploite des mines d'uranium, principalement actuellement au Niger. Alors le Niger fournit à peu près en ce moment entre la moitié et le quart de sa production. Antérieurement, la Cogema était au Gabon. Donc juste un petit rappel, parce que des fois on s'y perd, mais Areva est née de la fusion de Cogema et Framatome. Voilà. Donc en fait le prix de l'uranium qui est vendu à Areva est très... très inférieure à sa valeur réelle. Et par contre, le véritable prix, c'est le prix qui est payé par les populations africaines en termes de dégradation environnementale et sanitaire, qui sont énormes. C'est une catastrophe, particulièrement dans le delta du Niger. C'est une catastrophe sociale et une ingérence politique pour maintenir cet approvisionnement, bien sûr. Parce que sans uranium, pas de développement de l'industrie nucléaire en France. Et tout le monde sait que la France a misé sur l'industrie nucléaire à outrance, le tout nucléaire. Et donc on voit que ce mythe de l'indépendance énergétique, c'est vraiment un mythe, puisque 100% de l'uranium est extrait du sous-sol africain. Et environ 12% de la valeur produite est reversée à l'État nigérien. 12%. C'est vraiment une économie qu'on peut qualifier de prédation. Et pour s'approprier cet uranium, il a fallu se débarrasser des indépendantistes. Au Gabon, Léomba a été mis au pouvoir. On se débarrasse de ceux qui gênent et puis on met ceux qui seront complices de ce qui se passe. Au Gabon, donc il y a eu Léomba, ensuite il y a eu Omar Bongo, qui était directement issu des services secrets français et qui a régné pendant 40 ans sur le Gabon. Hein. C'est quand même pas des mandats de 4 ans. Et puis, quand il est mort, c'est son fils qui a pris la relève. Voilà, tout ça permet de faire fonctionner les entreprises commerciales en Afrique, au détriment des populations, bien entendu. Donc ça a été la même chose au Niger, où l'on a placé à la tête du pays en 1960 un francophile convaincu, qui était Amani Diori, et qui va être éliminé lors d'un putsch militaire, parce qu'il avait, on va dire que ça coïncide au moment où il a demandé une augmentation du prix de l'uranium.
S'il est un peu tôt pour faire le bilan de la présidence de Mahamadou Issoufou, on peut en revanche faire rapidement un bilan de l'exploitation de l'uranium dans le pays d'un point de vue économique. Au terme de 40 ans d'exploitation de l'uranium, côté français, Areva est devenue, comme je l'ai rappelé, la première entreprise du nucléaire civil, toutes activités confondues, avec des chiffres d'affaires qui fluctuent, surtout en ce moment, compte tenu des difficultés économiques qu'elle connaît, sur lesquelles je reviendrai, mais qui se chiffrent en presque 10 milliards d'euros, avec des bénéfices qui sont largement supérieurs au budget de l'État nigérien. Et la France, une puissance économique moyenne mais néanmoins importante dans le monde et qui, bien évidemment, doit beaucoup, de ce point de vue-là, au développement énergétique qu'il a connu grâce au nucléaire et à l'uranium nigérien. Et puis en face, le Niger, qui depuis 40 ans est resté sur le podium des trois pays les plus pauvres du monde, avec des taux de malnutrition, de mortalité infantile, de non-accès à l'éducation, à l'eau, à l'électricité, qui sont parmi les plus alarmants, là aussi, du monde, et avec des famines récurrentes, etc., etc. Donc un bilan qui permet rapidement de mesurer qui a profité de cette exploitation de l'uranium.
Voilà, donc on voit les dégâts que font l'extraction, l'extractivisme, pour reprendre les mots de Cerciron, Nicolas Cerciron, donc l'extraction de l'uranium en Afrique. On va continuer avec Total. Total qui est la cinquième compagnie pétrolière au monde, il faut le savoir, et qui est la première présente sur le continent africain. Total est présente dans 43 pays africains et 20% de la production mondiale d'hydrocarbures est réalisée en Afrique. Ce chiffre monte à 30% pour Total. Il extrait 30% de son pétrole en Afrique. Et bien sûr, ça ne date pas d'aujourd'hui puisque le premier gisement au Gabon a été découvert en 1962. Et Total a fêté en 2014 les 60 ans de sa présence en Angola. Donc vous voyez que la mise en place de la décolonisation, ça a été un rose sur le gâteau. Mais Total est également le premier en Afrique avec ses stations-service. Il en a environ 5000. Et dans la riche zone pétrolière du delta du Niger, Total, mais également Shell, opère en dehors de tout respect des droits humains. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique avec 170 millions d'habitants. Et il est le premier producteur de pétrole du continent, le 8e au monde. Donc on pourrait s'attendre à ce que le niveau de vie des populations soit élevé. Eh bien non, plus de 70% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Et depuis la découverte du pétrole dans le sous-sol, les compagnies pétrolières pratiquent impunément le torchage du gaz dans l'atmosphère. Alors c'est une pratique également appelée le gas flaring, c'est-à-dire que lorsqu'on extrait le pétrole, il sort brut, mélangé à de l'eau et du gaz. Et le pétrole du Delta est particulièrement riche en gaz. Et plus de la moitié va être brûlée à l'extraction. Donc ce système de torchage ne coûte pas un centime aux multinationales, mais les conséquences sont terribles pour les écosystèmes et les habitants du Delta, pour leur récolte comme pour l'air qu'ils respirent. Alors, bien sûr, ce n'est pas une fatalité. Le gaz pourrait être stocké, il pourrait être expédié vers une centrale ou réinjecté dans le sol. Et oui, mais cela nécessiterait un investissement économique que les multinationales ne sont pas disposées à faire. Donc, les déversements ou les fuites de pétrole actuellement, en plus du torchage qui pollue l'atmosphère et qui produit des pluies acides, il y a les déversements et les fuites de pétrole qui constituent la deuxième cause fondamentale de destruction de l'environnement. Et bien sûr, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait une fuite. Voilà. Et comme ça, chaque année, depuis 50 ans, la population du Delta subit des déversements de pétrole énormes. Chaque année, les déversements correspondent à la marée noire du pétrolier Exxon Valdez, là. Voilà, l'équivalent de cette marée noire qui se retrouve dans le delta du Niger chaque année. Concernant le torchage, le site du delta est aussi le lieu où la couche d'ozone terrestre est la plus détruite. Il faut le savoir, donc on peut toujours se réunir en COP21 et faire comme si on ne savait pas ce qui se passait là-bas. Elle est retombée donc du torchage en pluie acide, détruisent la végétation et stérilisent la terre qui était au départ la plus féconde de la planète. Alors, bien sûr, vous imaginez, les gens dans le delta sont à la limite de la survie. Pendant ce temps, Total, qui reste la première entreprise de France, ne paye pas d'impôts sur les sociétés en France. Ben non, c'est pas la peine, quoi. Autant qu'elle garde ses sous, hein. Elle emploie 100 000 personnes. C'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 200 milliards d'euros. Elle a un produit intérieur brut. Le produit intérieur brut du Portugal est inférieur à son chiffre d'affaires, avec son empire qui s'étend sur 130 pays.
L'eau, c'est la vie. Les océans recouvrent plus de 70% de la surface de la Terre. Et le monde marin n'est pas épargné par les pollutions dues à l'activité humaine. Depuis la fin des années 50, l'exploitation pétrolière au Nigeria a tué bien des personnes, enrichi quelques trafiquants et causé une pollution colossale. Ici, la mangrove se meurt peu à peu, étouffée par le pétrole rejeté dans le delta du fleuve Niger. L'eau est devenue poisseuse. Depuis 50 ans, les trafiquants et les compagnies pétrolières auraient laissé échapper dans le delta près de 200 000 tonnes de pétrole par an, l'équivalent d'une énorme marée noire. Un vrai fléau, selon le maire de la ville de Bodo.
Depuis que l'eau est contaminée, les cancers de la peau ont fait leur apparition. On a aussi des problèmes économiques, sociaux et écologiques. Car le pétrole détruit toutes nos ressources naturelles. Il a fait disparaître poissons et crustacés. Maintenant, il tue même les hommes. Il a aussi détruit le sens de la vie des gens, parce que toute notre communauté dépend de cette eau. Aujourd'hui, il n'y a plus de travail, car on ne peut plus pêcher ni cultiver. Le pétrole a tout détruit. Le pétrole n'est pas un bienfait, mais une malédiction.
Il y a quelques années, M. Do, chef d'un petit village, a dû prendre une terrible décision. Ordonner aux 400 habitants d'évacuer leur maison et d'abandonner la terre de leurs ancêtres.
Je vais vous montrer l'eau que l'on était obligé de boire. Regardez dans quel état est la source d'eau potable.
Autrefois, c'est ici que les femmes venaient puiser l'eau. Mais très vite, le pétrole a empoisonné la nappe phréatique.
Regardez cette huile à la surface de l'eau. On ne peut rien faire ici, ni la cuisine, ni la lessive. C'était vraiment difficile de vivre ici. Pas d'eau, pas d'électricité. On n'avait même plus de quoi se nourrir. Regardez-moi ça.
Le delta du Niger se vide tout doucement de sa population. Et les experts disent qu'il faudrait 25 à 30 ans pour dépolluer ces eaux. Selon les autorités, la pollution a ramené l'espérance de vie des habitants à 40 ans, alors qu'elle est de 60 pour le reste du pays.
Voilà, merci Total. On peut dire aussi merci à Bouygues, à Bolloré, à Rougier. À Rougier, c'est un des leaders mondiaux de la production et de la transformation et de la commercialisation des bois tropicaux. En fait, un des leaders de l'exploitation africaine présent depuis 50 ans en Afrique centrale. Il est au Cameroun, au Gabon, au Congo, Brazzaville. Il contrôle environ 1,5 million d'hectares de forêt. Je vous laisse imaginer les saccages des forêts africaines. Et puis, il ne faut pas oublier non plus Dassault, Lagardère, enfin, tous ceux qui font leur richesse en pillant l'Afrique. Voilà, c'était « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Merci d'avoir été à l'écoute. Un grand merci à Émilie à la technique. Et portez-vous bien. Bisous.
Bingayo kine miskwem.